On va un peu continuer le sujet que Alexandre avait développé avec...
En fait, pas tout à fait. Parce qu'il l'a tellement bien couvert que ce sera logiciel libre. Et activisme, je ne vois pas ce que je pourrais ajouter à ce que Alexandre a dit.
Mais voilà.
Ouais. Mais j'avais découpé en deux parties. Donc moi qui je suis vieux. J'ai 36 ans, ça fait un certain temps que j'ai commencé. J'ai découvert les logiciels libres en 87, 88, quelque chose comme ça. Et c'est une idée qui m'a séduit. C'était fabuleux d'avoir ce truc-là sous les mains. Et depuis, je participe occasionnellement au mouvement du logiciel libre. Donc, parfois, pendant des années, j'ai rien fait du tout pour le logiciel libre. Contenté de faire mon métier de programmeur, plus ou moins, d'apprendre des choses. Puis il y a des moments où j'ai consacré pratiquement une année entière à ne faire que de l'activisme logiciel libre. Et je pense que, de ce point de vue-là, je suis représentatif d'à peu près n'importe qui. Je n'ai pas de responsabilité, je n'ai pas de nom, personne ne me connaît, je n'ai pas de titre. Donc je suis un bénévole volontaire qui participe au logiciel libre comme ça, en joignant une organisation parce qu'elle fait quelque chose, et pas parce qu'elle est une organisation. Et donc la vision que je voulais vous faire passer par ma partie sur activisme, et que là je vous fais passer en deux secondes, c'est l'idée qu'on est tous à même de donner notre petite pierre. Il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup d'obstination, beaucoup de détermination. Il ne faut pas se décourager. J'ai rencontré des gens qui se décourageaient parce que le logiciel libre les avait déçus. J'ai été déçu parce que le logiciel libre ne me permettait pas d'éditer des textes correctement. J'abandonne le logiciel libre. Alors ça, c'est terrible parce que ça veut dire que le logiciel libre, c'est quoi? C'est un outil. Et donc ça, c'est ma première partie. C'est le logiciel libre... C'est pas un outil technique. Je m'excuse par avance parce que j'ai pas préparé les slides en ayant vu ta présentation. Mais je voudrais d'abord démonter une légende technique. Le logiciel libre, c'est pas la gratuité, c'est pas la qualité, c'est pas l'efficacité, c'est pas la fiabilité, c'est pas la pérennité. En fait, pour chacune de ces qualités-là, je suis même plutôt contre. Le logiciel libre, ça a tendance à coûter plus cher. Toutes les entreprises dans lesquelles j'ai été, qui se sont mises à faire du logiciel libre, ça leur a coûté. Ça leur a coûté parce que ça change leurs habitudes, essentiellement. Et même les gens qui font des études très sérieuses de total cost of ownership, alors on a un système informatique, on a des gens qui s'en occupent, je vais aller vers le logiciel libre, ça va me coûter combien ? Alors déjà, j'ai le coût de transition, puis après j'ai le coût d'entretien. Bah finalement, grosso modo, ça va me coûter à peu près la même chose. Alors oui, je ne vais pas payer des licences. Mais bon, le fait que 90% du chiffre d'affaires qui tourne autour du logiciel n'est pas réalisé par des ventes de licences, mais par du service, par de l'installation, du support, etc., ça se reflète aussi à l'intérieur de l'entreprise. C'est-à-dire que la grosse partie des coûts autour des systèmes informatiques, c'est pas les licences. Évidemment, on trouve des cas où c'est effectivement les licences qui coûtent très cher. Globalement, c'est pas vraiment ça. Donc la gratuité, c'est pas vraiment un paramètre. Allez, plus ou moins 20%, mais... Donc non. Je dis le logiciel libre parce que c'est gratuit, non. Puis j'évite de le dire d'ailleurs, parce que du coup, il y a des gens qui sont déçus. On a connu des gens qui ont été très déçus par ça. L'exemple, c'est en Afrique du Sud. Alors j'ai eu la chance d'avoir un visiteur qui venait d'Afrique du Sud et qui partait vers l'Angleterre, qui s'est arrêté à ma maison parce qu'il n'avait pas où habiter sur Paris, et qui m'a raconté que à un moment, le gouvernement sud-africain, et en particulier son président, donc M. Mbeki, a décidé de partir vers les logiciels libres. bien conseillé par un ancien révolutionnaire qui avait déposé son fusil et qui avait décidé d'enjamber le logiciel libre à la place. Et de façon surprenante, il y a eu une réaction d'un gros éditeur de logiciels multinationaux qu'on connaît, qui a vu ça comme potentiellement dangereux. Bien que le marché sud-africain soit tout petit et potentiellement en expansion, et la réaction face à ça, ça a été de dire ah ben, Monsieur Mbeki, pas de problème, je viens, je vous rencontre, il s'est déplacé, le PDG, je vous donne des licences gratuites pour les 2 années à venir. Vous avez des licences gratuites pour tout. Je comprends que pour vous, le problème du coût est vraiment un problème important. Alors là, l'activiste a été bien, bien embarrassé. Parce que lui, pendant un an, il avait bien fait son argumentaire. Mais il avait dit, ça ne va pas vous coûter cher. Alors là, il y a un éditeur derrière, multinational, gros, qui arrive. Eh ben moi non plus, ça ne coûte pas cher. Allez, hop. Et ça en était fini de la politique du gouvernement pour le logiciel libre. C'est fâcheux. La même chose est arrivée de façon un peu moins fracassante au Québec. Du côté de la qualité, l'efficacité, la fiabilité, la pérennité, qui sont les arguments principaux qu'on retrouve dans l'argumentaire open source. C'est le logiciel, c'est ça. Pourquoi vous voulez l'adopter ? Mais parce que c'est de super qualité. Bon. Il dit d'accord. Il y a des logiciels libres de qualité. On ne peut pas le nier. Il faudrait être aveugle, quand même, pour ne pas voir que la grande majorité des logiciels libres, c'est de la merde. Sur 10 000 projets qui sont dans FreshMeet, 80%, c'est n'importe quoi. Alors c'est une grosse critique au mouvement du logiciel. Non, parce que dans l'industrie propriétaire aussi, 80%, 90% des logiciels propriétaires qu'on achète, c'est de la merde. Donc bon, là-dessus, oui, il y a des logiciels de grande qualité dans le logiciel libre, c'est évident. Mais il faut peut-être y aller un peu mollo. Parce que sinon, on se retrouve avec des revirements possibles, comme ce qui est arrivé à Lectra. Lectra, c'est une entreprise française qui fabrique des machines de découpe de tissus. C'est un leader mondial de la découpe de tissus, un domaine que tout le monde connaît très bien. Et j'ai travaillé pour Lectra en 88 et avec un enthousiasme pragmatique qui est faisons entrer le logiciel libre par la petite porte, il en sortira toujours quelque chose. J'avais recompilé l'intégralité du système Unix propriétaire qui existait à l'époque avec des outils logiciels libres. Donc j'ai cessé, et puis j'avais mis tout ce que je pouvais dedans, ils avaient gagné des performances. Efficacité, super efficace. Et puis globalement, c'était plus stable. C'est-à-dire que le système Unix qu'on avait porté comme ça, il plantait moins. Le code était de meilleure qualité. Fantastique. Et de 88 à 96, 97, Lectra a eu un track record phénoménal en France de réputation de « on utilise des logiciels libres ». C'était l'entreprise emblématique utilisant les logiciels libres. Et puis à un moment, à l'intérieur de Lectra, pour des raisons politiques ou pour des raisons techniques, je dirais peut-être pour des raisons techniques, il y a eu suffisamment d'entrisme de la part d'un représentant d'un système d'exploitation concurrent qui a réussi à démontrer que techniquement c'était plus fiable, que la qualité était meilleure, que son système avait évolué, qu'il s'était bien amendé. Et en 97-98, Lectra a décidé de laisser tomber GNU Linux. Parce que bon, entre temps, ils étaient passés de juste j'ai compilé un système propriétaire à tout GNU Linux, etc. Ils ont décidé de laisser tomber GNU Linux au profit du concurrent, totalement propriétaire. Alors pour moi, ça a été un choc. C'était aussi irréalisation, mais ça sert à quoi de faire rentrer des choses par la petite porte? Finalement, si on met ça à l'intérieur et puis que c'est que sur des arguments techniques, on n'est pas du tout à l'abri du fait qu'à un moment, ces arguments techniques deviennent obsolètes, pour une raison ou pour une autre. Je ne remets pas en cause la validité du raisonnement. Je ne dis pas que ça a été des pourris qui sont vendus, qu'ils ont donné des pots de vin pour enlever GNU Linux. Ça se trouve, ils ont eu des vrais arguments techniques et c'est passé. Au nom de quoi on peut supposer que le logiciel libre a par nature, que c'est quelque chose qui est naturel au logiciel, que d'être de qualité. Sur FreshMeet, il y en a 80%, c'est de la grosse merde. Alors c'est bien la preuve que c'est pas par nature quelque chose qui sort du logiciel libre. Alors ce dialogue-là, hein, je l'ai eu pour la première fois avec Idealix, qui est une boîte française qui a une tradition open source, qui s'est bâtie sur l'open source, donc sur cet argumentaire-là. On a eu une discussion très perturbante sur exactement ce sujet-là. C'est-à-dire qu'au lieu de parler comme je le fais là, on était dans une salle et on s'est renvoyé à ces arguments-là, eux me disant, mais si, la qualité, mais regarde Apache, et puis de toute façon, si, ça finit par rentrer. Moi, j'y crois pas. Pour moi, le logiciel libre, c'est pas ça.
Moi, le logiciel libre, c'est une question de morale.
Essentiellement. Le logiciel libre, c'est moral, c'est du logiciel moral. Le logiciel libre, c'est une science dotée d'une conscience. La science du logiciel, qui a été dotée d'une conscience, qui est, il faut que le logiciel ait certaines libertés, et qu'il ne peut pas en être autrement. Dans l'histoire des sciences, c'est peut-être la première fois qu'une science est dotée d'une conscience, ou que moins elle suscite l'apparition d'un philosophe si peu de temps après qu'elle ait été découverte ou qu'elle se répande dans le monde. Le temps qu'a mis l'écologie à apparaître suite à la révolution industrielle a comparablement plus long. Alors que là, les logiciels, on a commencé à les fabriquer quoi, il y a 30 ans, il y a 40 ans. C'est rien du tout dans l'histoire. Et les logiciels, c'est jusqu'à la fin des temps qu'on va les utiliser. Et là, on est à ce moment dans le temps où on peut faire quelque chose et où, en plus, on a des idées qui paraissent assez saines, enthousiasmantes, humanistes. On est à un moment dans le temps où il ne s'agit pas de détruire tout un système, mais de le construire. Je m'égare. Donc la liberté, pour moi, c'est la qualité irréductible du logiciel libre. C'est pas du tout la qualité et l'efficacité, c'est la liberté. En l'occurrence, quatre libertés. D'abord, il faut qu'on puisse l'utiliser, évidemment. Ensuite, il faut qu'on puisse regarder comment il fonctionne, il faut qu'on puisse l'étudier. Et pour ça, une condition nécessaire, c'est qu'on ait accès au logiciel sous une forme lisible par l'être humain. Donc le code source, une condition nécessaire. Et quand on a réussi à l'étudier, on l'a utilisé, on l'étudie, on se dit qu'on va peut-être y changer quelque chose, donc il faut qu'on ait la liberté de le modifier. Et tout ça ne serait rien si ça tombait dans l'entonnoir de notre ordinateur sans jamais en ressortir, donc il faut qu'on ait la liberté de le redistribuer. Ces quatre libertés-là, c'est ça, et rien d'autre, pour moi, l'essence du logiciel libre. Il s'avère que je suis convaincu, dans mon fort intérieur, que sur le long terme, ça donnera des logiciels de meilleure qualité, qui seront plus fiables, que c'est la seule façon de faire du logiciel. Mais je tiens à vous convaincre, à vous engager à ne pas inverser les causes et les effets. Si vous prétendez à quelqu'un qui a du logiciel de qualité, vous lui mentez d'une certaine façon. Si vous lui dites qu'il sera toujours libre avec le logiciel libre, là vous ne pouvez pas lui mentir. Il ne peut pas être déçu pour le coup. La personne qui va dire « je suis déçu par le logiciel libre parce qu'elle n'a pas réussi à traiter mon texte », c'est qu'elle n'a pas compris ce que c'était le logiciel libre. C'est-à-dire qu'elle a trouvé que son logiciel était de mauvaise qualité. Alors, oui, il y a du logiciel libre de mauvaise qualité. Tu ne peux pas être déçu du logiciel libre, sauf si on t'enlève tes libertés. Alors là, justement, il y a un débat. Deux écoles de pensée. Ceux qui pensent qu'on doit défendre ces libertés et ceux qui pensent qu'on ne doit pas les défendre. Ceux qui disent le logiciel, je te le donne, avec toutes les libertés. Tu as toutes les libertés. Ces quatre libertés-là, tu les as, je te les donne. Mais toi, tu peux les enlever. Tu as le droit de les enlever. Tu as le droit de rendre ce logiciel-là propriétaire. Tu as le droit d'interdire à quelqu'un de le redistribuer, tout en lui laissant le droit de le modifier, peut-être de l'étudier un peu, de l'utiliser sur une seule machine. Tu peux les enlever. Moi, je suis généreux. Le reste du monde peut réduire le reste du monde en esclavage. Ça, j'appelle ça un pouvoir. C'est-à-dire que on donne le pouvoir à quelqu'un de réduire les autres en esclavage. Et il y a une autre école de pensée, qui est celle qu'on appelle communément copyleft,